Voici les titres du journal.
Et retour sur les votations de ce week-end. Malgré un large oui à la votation loi Covid, la Suisse reste divisée sur le sujet. Faut-il s'en inquiéter? La question de la démocratie soulevée par notre correspondant à Berne, Serge Jubin. Les Valaisans ont accepté à une large majorité l'initiative pour un canton sans grands prédateurs. À 62,67%, ils ont ainsi validé l'élaboration d'un texte de loi sur le loup, mais également un signal envoyé à Berne. C'est non pour la rénovation du château de la Tour de Paix. Hier, les Boëlans ont refusé par 58% le projet de la municipalité. La participation pour ce scrutin s'est élevée à 62%. En football, le derby lémanique de Super League a tourné en faveur de Servette. Hier après-midi, les Genevois n'ont pas tremblé devant le Lausanne Sport et son public.
Le ciel sera couvert, voire même bouché pour cet après-midi avec encore quelques flocons de neige. Et puis pour demain, quelques éclaircies possibles le matin avant le retour des nuages et de quelques faibles chutes de neige. La météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Alexandra Claude. Bonjour Alexandra.
Bonjour. On ouvre ce journal par un volet consacré aux votations d'hier. Malgré le oui net à 62% à la loi Covid et au certificat sanitaire, la Suisse reste divisée face aux mesures prises pour lutter contre la pandémie. Certains mouvements d'opposants annoncent ne pas reconnaître le résultat. Faut-il s'en inquiéter? La démocratie est-elle malmenée? Notre correspondant à Berne, Serge Jubin, a interrogé à ce sujet le conseiller national vaudois Samuel Bendaan.
Le problème qui est réel, c'est que la Suisse reste divisée. Il y a une majorité écrasante, à mon avis, aujourd'hui, de gens qui ont soutenu les textes auxquels je me rattache, dont je suis fier. Donc ça, c'est vraiment une belle victoire. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ne pensent pas de la même façon. Et donc, ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Il ne faut pas juste avoir gagné. La démocratie, ce n'est pas forcément l'écrasement des perdants par les gagnants. Ce n'est pas du tout ça. On fait de notre mieux. Et le peuple nous dit continuer comme ça. Mais ça veut aussi dire qu'on doit toujours faire attention et on doit faire de notre mieux pour unifier ce peuple. C'est vrai que ce qui nous rend la vie très dure, c'est les mensonges en face, ce qui fait qu'on doit lutter en fait, parfois contre des choses qu'on n'est pas trop habitué en Suisse, et ça c'est nouveau.
Cette campagne des adversaires de la loi Covid dans la rue, par les affiches, par les arguments, qui n'a pas gagné, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces gens-là?
J'aimerais d'abord dire aux gens qui ont voté non à la loi Covid que je comprends pour beaucoup d'entre eux ce qu'ils ont voulu donner comme message et que je leur en veux absolument pas et que je ne vais pas non plus lutter contre. Je pense que ces gens ont aussi des soucis, des inquiétudes. Maintenant, pour ce qui est des gens qui sont battus contre la loi Covid avec des arguments inacceptables, avec des mensonges, plus comme une religion ou comme une secte que comme un débat rationnel, là, je pense qu'effectivement, on va devoir combattre cette manière de faire de la politique. C'est-à-dire, la politique, c'est être raisonnable, c'est être honnête, c'est être sincère, c'est être droit. Et puis, c'est de mettre les choses connues sur la table. Si on ignore les faits, si on ignore la science, si on ignore le savoir, on va dans une autre humanité. Et celle-ci, je ne veux pas y aller.
On voit qu'un certain nombre de ces mouvements pourraient se transformer en partis politiques, même s'ils en rejettent un peu le principe. Il faut s'inquiéter.
C'est un risque. Certaines personnes s'organisent dans une lutte contre la démocratie. Oui, ça c'est clair. On pourrait imaginer une lutte contre, par exemple, la reconnaissance de ce qui a fait le bien dans notre humanité, le progrès, la recherche, le travail en commun, la coopération, la solidarité, toutes ces valeurs qui ont été combattues vraiment très durement par les opposants à la loi Covid et qui pourraient se mettre ensemble en fait, dans une logique plutôt de mise en commun de gens enragés. En fait. Mais je pense aussi que les gens qui ont voté non à la loi Covid ne sont pas des gens qui sont tous d'accord avec ça. C'est simplement des gens qui n'ont pas forcément eu confiance dans les autorités politiques ou qui ont eu très confiance en eux parce qu'ils avaient très peur de ce qui a été agité. Mais je pense qu'avec le temps et avec le débat, on arrivera aussi à montrer concrètement ce qui se passera sur le terrain et à convaincre plus de gens que ce n'est pas la voie à suivre, la voie de l'obscurantisme en fait.
Est-ce qu'on devrait aussi mener un débat sur la notion de minorité? Minorité qui ne gagne pas, mais minorité qui veut avoir raison. Vous êtes, vous, régulièrement dans la minorité. Est-ce qu'on doit redébattre de ce que peut faire une minorité, ce qu'elle a le droit de faire aussi?
Oui, je pense que c'est toujours un vrai débat qu'il faut avoir. Toujours, les minorités doivent être écoutées, respectées et comprises et intégrées. Je ne suis pas pour l'écrasement. Ce n'est pas parce qu'on gagne à 50,1% contre 40,9% que tout d'un coup, on doit ignorer complètement ceux qui sont opposés. Et même si c'est 10 ou 20% de gens, ces gens existent, ils vivent avec nous. Tout le monde doit pouvoir être écouté. Ce débat doit être fait de façon démocratique et de façon conforme aux faits et à la réalité. Je pense que, par exemple, si les études scientifiques qui sont vraiment incontestés montrent l'efficacité vaccinale, on ne peut pas débattre comme si une opinion si les vaccins marchent ou pas. Ça, c'est un fait. Par contre, qu'est-ce qu'on fait de ces vaccins et quelle politique on mène? Il faudra écouter les gens qui sont opposés et il faudra s'assurer qu'on puisse tous vivre en harmonie. Ça, c'est important.
Samuel Bendaon, conseiller national socialiste vaudois, interrogé par notre correspondant à Berne, Serge Jubin. Et autre objet soumis au peuple hier, le texte sur les soins infirmiers. Et c'est une première en Suisse, une initiative portée par une association professionnelle qui défend ses conditions de travail et qui est acceptée par le peuple. Le texte pour des soins infirmiers forts a passé la rampe avec 61% de oui. Seul le demi-canton d'Appenzell-Rhodes-Intérieur l'a rejeté. Le texte demande à la fois des moyens accru pour former davantage d'infirmières, mais il veut aussi revaloriser les conditions de travail. À la tête de l'initiative, l'Association suisse des infirmières et infirmiers et sa présidente Sophie Lay. Elle savoure sa victoire au micro de notre correspondant Serge Jubin.
Écoutez, oui, c'est historique, c'est une magnifique victoire, une initiative qui passe comme ça, c'est vraiment rare, c'est magnifique. Je ne peux que remercier la population de la confiance dans le système de santé suisse et dans les soins en Suisse. Merci.
Comment est-ce que vous avez réussi là où les syndicats, par exemple, ne réussissent à peu près jamais ?
Nous sommes une association professionnelle, nous, de 26 000 membres. On a mobilisé tous nos membres dans chaque section, dans chaque ville. On a mobilisé plus de 40 000 personnes en Suisse qui ont fait un travail autour d'eux. On a essayé de faire le maximum. On n'avait pas forcément beaucoup de moyens, mais on avait des personnes qui étaient intimement convaincues qu'il fallait que ça passe parce qu'il en va de la qualité et de la sécurité des soins à l'avenir dans notre pays.
Ce que vous avez surtout réussi à faire, c'est à montrer que le compte-projet, c'est bien, mais c'est très insuffisant.
Alors c'est ça, c'est qu'on a réussi à montrer que l'initiative, elle était complète, équilibrée, qu'elle prenait en compte à la fois l'incitation à la formation, mais aussi pour durer dans la profession, parce que c'est ça qui est important. On doit garder le personnel que l'on forme et dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils donnent les meilleurs soins possibles.
Est-ce qu'on peut dire avec un peu de cynisme que la partie, on dira, la plus facile, elle est faite aujourd'hui et que maintenant, c'est peut-être la partie la plus difficile? Comment traduire ça dans les actes?
C'est sûr que le travail ne s'arrête pas aujourd'hui, nous le savions déjà, et on sait que dès demain, on va se remettre à travailler, on va demander qu'il y ait des groupes de travail qui soient constitués avec les gens qui étaient nos supporters et les gens qui étaient contre, de manière à pouvoir travailler maintenant sur les lois, décliner les revendications de l'initiative dans le texte constitutionnel.
Comment est-ce que vous imaginez qu'on puisse introduire dans une loi la manière dont on doit, par exemple, rémunérer les infirmières ?
Alors la rémunération ne fait pas partie, je le répète, j'ai répété à de nombreuses reprises, ne fait pas partie du texte de l'initiative. Dans le texte de l'initiative, on parle de la rémunération appropriée des soins infirmiers, qui sont en fait les activités infirmières. Les activités infirmières, aujourd'hui, elles ne sont pas assez rémunérées, l'acte infirmier, ce qui fait que les institutions ne peuvent pas engager du personnel en suffisance diplômée pour effectuer ces actes très particuliers. Demain, si les actes des soins infirmiers sont mieux rémunérés, alors on aura plus d'argent, on pourra augmenter le nombre d'infirmiers diplômés. Parce que l'on sait aussi que l'augmentation du nombre d'infirmiers diplômés dans les dotations permet de diminuer les complications, diminuer la durée de séjour, permet de diminuer les réhospitalisations, donc de fait, permet de faire des économies sur un moyen terme.
Vous avez gagné au plan fédéral. Vos interlocuteurs risquent d'être les cantons à l'avenir. Est-ce que vous pensez qu'ils ont entendu le vote d'aujourd'hui ?
S'ils ne l'ont pas entendu, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Tous les cantons ont des excellents scores. Si la politique cantonale n'entend pas la population, je pense qu'il y a un problème.
Vous, personnellement, vous êtes présidente de cette association, vous avez gagné aujourd'hui. On vous trouvera aussi ailleurs en politique, quand on a gagné une fois, on prend goût, non ?
Écoutez, je pense pas. Je pense que c'est très différent le travail d'être présidente d'une association et de se battre pour des valeurs et pour la qualité d'un exercice professionnel que de se battre en politique. Pour le moment, j'ai pas de choix politique et je vais rester comme présidente de l'Association suisse des infirmières et des infirmiers.
Oui, c'était Sophie Lay au micro de Serge Jubin.
Il y avait aussi des votations à l'échelle cantonale hier.
Et le Valais a largement accepté l'initiative pour un canton sans grands prédateurs. Et ceci même si le texte ne peut être appliqué en l'état. Les votants ont suivi à une majorité de 62,67% le gouvernement qui soutenait cette modification de la Constitution. Le canton envoie ainsi un signal fort à Berne. Ce résultat sans appel a bien entendu ravi les défenseurs du texte. Robin Udry est membre du comité initiant. Il était hier au micro de Joël Espy.
Oui, c'est un résultat qui reflète bien aussi la préoccupation de la population valaisanne. C'est un résultat qui nous réjouit et puis qui est aussi à mettre en parallèle avec la débauche de moyens des opposants à notre initiative qui étaient bien plus présents que nous et qui ont certainement investi beaucoup plus d'argent en prétendant que notre initiative était inutile, ce qui est aussi paradoxal.
Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?
Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est que c'est un mandat que le peuple valaisan a confié aujourd'hui à ses élus, donc à ses élus cantonaux. Donc, c'est le Parlement maintenant qui va devoir plancher sur cette rédaction de loi. Loi que nous souhaitons équilibrée, que nous souhaitons surtout respectueuse de l'environnement, mais également respectueuse d'une biodiversité que nous promouvons, dans laquelle chaque espèce a sa place et aucune espèce ne doit être plus protégée qu'une autre.
Vous me disiez, vous avez des conseillers nationaux dans votre STAM. Il était question quand même de mettre, on va dire, un coup de pression sur Ben avec cet exemple valaisan qui sera le seul canton romand à se doter d'une telle loi.
Alors ce n'est pas un coup de pression sur Ben, parce que la politique ne fonctionne pas comme ça. C'est un appel du pied. Et c'est surtout un coup de main qu'on va donner aujourd'hui aux élus valaisans qui, à Berne, rapporte ses préoccupations de la population. Je crois que c'est aussi le rôle d'un élu que lorsqu'une problématique se trouve dans la société, que l'on prenne des moyens nécessaires pour justement apporter une solution. Aujourd'hui, à Berne, les chambres fédérales vont plancher sur différentes motions, notamment sur une motion déposée par le conseiller aux États, Béatrice Dère, portant justement sur les aspects problématiques de la cohabitation avec le loup.
Du côté des opposants à cette initiative anti-loup, on préfère voir le verre à moitié plein, à l'image de Jérémy Savio, député vert et membre du comité pour le non. Pour lui, le résultat n'a pas été une surprise.
On se faisait peu d'illusions sur le résultat global, ça c'est sûr et certain. Après, non, on est quand même plutôt satisfait de voir qu'il y a quand même plusieurs communes qui refusent cette initiative. Et puis, notamment, qu'il y a une nette amélioration, on va dire, par rapport à la loi sur la chasse de septembre 2020, avec une proportion de oui qui diminue dans toutes les régions du canton. Donc le constat, il est finalement pas si négatif que ça. On voit que c'est clair qu'il y a une opinion majoritairement opposée au loup, mais quand même beaucoup de Valaisans qui se rendent compte que cette initiative, elle est pas applicable, elle amène rien de concret pour les éleveurs. Et puis maintenant, on verra en fait la loi d'application qui sera mise en place. C'est ça la grande inconnue.
Justement, est-ce que vous avez une marge de manœuvre par rapport à l'élaboration de cette loi? Je parlais avec M. Udry tout à l'heure. Il disait que l'abattage du loup était vraiment tout dernier recours et que c'était plutôt l'utilisation des mesures habituelles, des tirs de sommation dans certains cas. Et que voilà, finalement, on ne va pas tuer tous les loups qui allaient être présents en Valais. Est-ce que vous pouvez pousser pour vérifier que ça soit bien appliqué de cette façon?
Alors c'est clair qu'on va être attentif à la mise en application de cette initiative. Je pense que toutes les mesures que peut proposer le comité d'initiants auraient déjà pu être mises en place, pourraient déjà être mises en place maintenant, sans avoir besoin de cette initiative qui nous a coûté beaucoup de temps et d'énergie pour rien. Après, on sera très attentif à la question de l'interdiction de la promotion des grands prédateurs. C'est un des points qui nous inquiète le plus, parce que selon nous, c'est inapplicable. On se heurte tout de suite à la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Donc c'est clair qu'on va suivre de près cette mise en application. Si mise en application il y a, parce qu'on voit que dans le canton du Riz, l'initiative a été acceptée mais n'est toujours pas appliquée, certainement parce qu'elle est tout simplement inapplicable.
Et du côté de la participation, l'initiative pour un canton du Valais sans grands prédateurs a mobilisé un peu plus de 65% de l'électorat.
On passe à présent en rotation communale. La rénovation du château de la Tour de Paix devra attendre.
La population a nettement refusé par 58% le projet de la municipalité hier. Un projet à 10 millions de francs qui voulait rénover le château, donc, mais aussi le musée suisse du jeu. La création d'un restaurant dans le donjon de la bâtisse était aussi prévue. Mais les arguments du non ont pesé dans la balance. Les Boëlans n'ont pas voulu de ce projet qualifié de ruineux. L'objectif maintenant est de se tourner vers le futur. Jean-Yves Schmidhauser, conseiller communal et membre du comité opposé au projet.
Pour nous, donc, le château mérite effectivement une rénovation et nous encourageons la municipalité à remettre l'ouvrage sur le métier en relogeant le restaurant là où il devait être dès le départ, c'est-à-dire dans un des bâtiments existants, en supprimant le projet de création d'un nouveau restaurant et puis en trouvant un concept de protection et de mise en valeur de ces ruines ancestrales qui ont été découvertes.
La municipalité qui portait ce projet va devoir donc remettre l'ouvrage sur le métier. On écoute la syndic de la Tour de Paix, Sandra Glardon.
On prend acte de la décision de la population. Nous savons clairement que le château a besoin de rénovation et nous allons nous remettre au travail pour présenter un nouveau projet.
Et puis peut-être un mot alors sur la participation qui a démontré finalement avec 62% que la population s'est sentie très concernée par cette votation.
Je peux que saluer cette proportion, c'est vraiment très encourageant, ça veut dire que les Boëlans ont vraiment envie de pouvoir se projeter dans des projets, donc je félicite et je les encourage à venir voter les prochaines fois.
Des propos recueillis par Quentin Frey, la municipalité a d'ores et déjà formulé le souhait d'impliquer davantage les Boëlans dans l'élaboration du prochain projet de rénovation du château de la Tour de Paix. Dans le reste de l'actualité, Lausanne abrite la première plateforme d'innovation collaborative dédiée aux soins et à la santé, baptisée H4. Elle a été dévoilée aujourd'hui par l'Institut La Source, sous l'égide de la fondation du même nom. L'idée, accompagner les entreprises vaudoises dans le développement de projets qui visent à repenser les pratiques exercées au sein du système de santé. La plateforme, qui sera officiellement lancée le 1er janvier, représente un investissement de 3 millions de francs sur 5 ans.
Le Valais serre la vis sur le front du Covid-19.
Dès aujourd'hui, le port du masque est à nouveau obligatoire à l'intérieur, ceci dès 12 ans, dans les lieux clos, mais aussi les manifestations et les marchés. En complément au certificat, le masque sera imposé dans les cinémas, théâtres, salles de spectacle et restaurants. Le Valais fait face à une augmentation exponentielle du nombre de cas de Covid-19, a communiqué le canton vendredi soir. La situation est jugée critique par les autorités sanitaires et contraint le Conseil d'État à prendre ces nouvelles mesures. Il y a du changement à la tête de l'Association libérale radicale des districts de Monté et Saint-Maurice. Le Vieux-Nérou, Xavier Mottet, a été élu coprésident la semaine dernière lors d'une assemblée générale, remplaçant ainsi Marie-Claude Nottecker. Il assumera son mandat aux côtés de Sandra Panatier. L'heure de la rentrée sonne ce lundi pour les parlementaires fédéraux. Traditionnel exercice de la session d'hiver, les chambres entameront l'examen du budget de la Confédération pour 2022 dès demain. Ce sera le point important de cette première semaine. Le Conseil fédéral planifie plus de 80 milliards de francs de dépenses et 78,6 milliards de recettes. Parallèlement, il prévoit des dépenses extraordinaires de 925 millions dans le cadre de la lutte contre la pandémie, notamment pour l'achat de vaccins et pour couvrir les pertes de cautionnement.
Le premier cas du variant Omicron a probablement été détecté en Suisse, annonce l'OFSP.
Il s'agit d'une personne de retour d'Afrique du Sud il y a une semaine, un variant qui inquiète le monde entier avec des fermetures de frontières et une réunion en urgence des ministres de la Santé du G7 aujourd'hui. Ce variant est-il plus dangereux que Delta? La réponse de la bioéthicienne Samia Hurst.
C'est trop tôt pour le savoir, en fait. On a effectivement reçu, il y a peu de temps, cette annonce d'un nouveau variant avec beaucoup de mutations qui a fait redémarrer, apparemment en tout cas, une vague en Afrique du Sud alors que les choses semblaient apaisées dans ce pays. On sait qu'il est probablement plus contagieux. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est s'il échappe à l'immunité préexistante et si oui, à quel point. Et on ne sait pas non plus s'il est, entre guillemets, plus méchant ou moins. Pour ça, il faut attendre quand même une quinzaine de jours. Il y a des équipes de scientifiques qui travaillent d'arrache-pied, mais la science ne fonctionne pas de manière instantanée. Même si on aimerait bien tout savoir depuis avant-hier, ça prend quand même un petit peu de temps.
Des propos recueillis par nos confrères de Radio Lac. Et le variant Omicron du coronavirus a été détecté également pour la première fois en Autriche, dans la région du Tyrol, chez une personne ayant là aussi récemment voyagé en Afrique du Sud. Les autorités régionales de santé du Tyrol avaient indiqué samedi soupçonner un cas de contamination à ce variant sur une personne sans symptômes et l'a donc confirmé ce matin. Genève est la ville suisse qui dépense le plus pour la culture. Zurich et Bâle complètent le trio de tête. Au total, les villes ont injecté près d'un milliard dans la culture en 2019. C'est la première fois que l'Office fédéral de la statistique présente ces chiffres. Le constructeur automobile japonais Nissan, allié du français Renault, souhaite qu'à l'horizon 2030, la moitié de ses ventes mondiales soient des véhicules électriques ou hybrides. Cette part était de 10% en 2020. Nissan compte pour ce faire introduire 23 nouveaux modèles de ce type durant cette prochaine décennie. En ski alpin, Wendy Holdener a décroché son premier podium de la saison en Coupe du Monde. La Suissoise a terminé troisième du slalom de Killington hier soir. Elle n'a été devancée que par Mikaela Shiffrin et par Petra Vlova, leader après la première manche, mais coupable d'une grosse faute sur la deuxième. Septième, puis quatrième dans la discipline à Lévis le week-end précédent, Wendy Holdener confirme donc sa montée en puissance. De son côté, Michelle Guisin continue, elle, d'alterner le bon et le moins bon en ce début d'hiver. L'Obvaldienne n'a pu faire mieux qu'un 11e rang. Camille Rast a pour sa part signé son meilleur résultat de la saison. La Valaisanne a terminé au 16e rang pour inscrire des points pour la 3e fois cet hiver.
En football, le Lausanne Sport a cédé sous la neige.
Le deuxième derby lémanique de la saison de Super League a tourné à l'avantage de Servette hier au stade de la Tuilière. Les Grenats se sont imposés 3-0, mais le score est quelque peu trompeur puisque le Vaudois Cameron Puertas s'est fait expulser juste avant la pause. De quoi frustrer le défenseur bleu et blanc Anel Ozic.
Ça tue le match, on était bien, on n'était pas meilleur qu'eux, c'était un bon match, c'est un derby, voilà. C'est dommage de prendre un rouge à la mi-temps. Et puis bah, derrière, deuxième mi-temps, c'est au-dessus, clairement au-dessus, ils ont un joueur de plus, ils attaquent, on ramasse, on prend un but, on lâche deux, puis voilà. C'est comme ça, faut penser à autre chose, focus sur balle la semaine prochaine et on tourne la page.
Deux actions similaires pour un résultat identique et Cameron Puertas a de quoi regretter son expulsion face à Servette. À deux reprises, un tacle inutile précédé d'une mauvaise touche de balle a obligé l'arbitre de la rencontre à sortir un carton jaune. Ilia Borenovic, entraîneur lausannois.
Moi je ne l'ai pas vu mais il est très déçu, il est très déçu pour le groupe, il est très déçu pour le match. Il voulait évidemment bien faire, il était plutôt bon, plutôt dynamique et voilà c'est dommage. Il voulait être le héros mais malheureusement aujourd'hui il sort très déçu et très triste. Mais ça c'est aussi le foot, ça c'est aussi le derby, c'est aussi l'atmosphère, ça c'est aussi Servette-Lausanne, c'est ça.
Des propos recueillis par nos confrères de LFM, un succès aurait permis à Lausanne de revenir à une longueur de son rival au classement de Super League. Au lieu de cela, Servette prend 7 points d'avance et le LS aura la lourde tâche de corriger le tir à balle dimanche prochain. Et enfin en basketball, l'équipe de Suisse masculine a parfaitement réagi après sa défaite subie en Autriche en ouverture des préqualifications de l'Euro 2025. La sélection du coach grec Ilias Papatheodorou a dominé Chypre 66-43. À Fribourg. Le retour du polyvalent Nathan Jurkovic, forfait en Autriche, lui a fait le plus grand bien. Le Fribourgeois a cumulé 12 points, 7 rebonds et 3 assists. Les Suisses se verront opposés à l'Irlande dans leur prochaine rencontre de qualification, match qui aura lieu le 24 février.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec Romain d'Énergie, à vos côtés dans la transition énergétique.
Un ciel nuageux va encore nous accompagner pour cet après-midi avec quelques flocons, toujours signalés par Météo Suisse. Des flocons aussi prévus pour les régions des Portes du Soleil, les Ormonts et le Pays d'en Haut, avec un temps très bouché, là nous dit Météo Suisse, et également des températures très fraîches. Écoutez plutôt en pleine au maximum 2 degrés, moins 2 à 1000 mètres et moins 8 à 2000. Pour demain, après une nuit froide, quelques éclaircies, puis le ciel va se couvrir à partir de l'ouest avant l'arrivée de quelques faible chute de neige en cours d'après-midi, surtout en montagne. Demain, de moins 3 à 3 degrés en pleine, de moins 9 à 1 degré à 1000 mètres, et puis de moins 9 à moins 3 degrés à 2000.